Mesdames et messieurs, j'ai passé une heure la semaine passée à vous expliquer que le Gandhara se limitait à l'ouest, au début de la passe du Raïber, et à l'est, au cours de l'Indus. Et si vous connaissez un peu le sujet, vous avez dû vous dire que M. Fouché n'avait pas la même opinion que moi, puisqu'en 1905, lorsqu'il publie l'art gréco-bouddhique du Gandhara, il fait état de quelques pièces qui viennent d'en dehors de cette région. Les dates sont importantes. En 1905, pour un livre qui a commencé à être écrit en 1880, le nord-ouest, ce qu'on appelle maintenant la Raiber-Parsunwa, qui s'appelait il y a encore quelques années le Northwest Frontier Province, était un territoire juste conquis par les Britanniques, et les Britanniques n'étaient que dans le Gandhara. La fouille de Taxila commence en 1914. On connaissait très peu de choses de Taxila en 1905. La conquête britannique du Bunner, du Swat et de la vallée du Dir, on peut vous montrer puisqu'on a l'image. On va peut-être augmenter un peu. Voilà, donc le Gandhara, c'est cette région-là, la petite région de Peshawar. Taxila, c'est Rawalpindi, qui est à 3 jours de marche, ou 2 jours de marche si on marche rapidement, de la vallée de l'Indus. Taxila était connue. Il y avait eu une fouille de Cunningham, mais les grandes fouilles de Taxila commencent en 1914 seulement. Les vallées importantes qui sont ici au nord, en particulier la vallée du Swat, la petite vallée du Bunner qui a fourni quelques bas-reliefs et la vallée du Dir, avaient été conquises très peu de temps auparavant par les Britanniques et vivaient sous un régime d'autonomie presque entière. C'est-à-dire que les Britanniques tenaient quelques postes et le pays était interdit aux étrangers. La police, toute l'administration dépendait de ce qu'on appelait le rouleur du Swat, le souverain du Swat, qui était un souverain à la fois religieux et politique, puisque c'était le descendant d'un grand saint musulman. Ça a duré longtemps. Lorsque je suis allé pour la première fois dans le Swat, dans les années 60, le territoire était encore autonome, il y avait une police autonome, on passait la frontière et le pays était pacifié. Mais enfin, on vous disait de faire un peu attention. Quand, 20 ans plus tard, je suis allé voir dans le Dir, qui, dans les années 60, était absolument interdit et qui, dans les années 80, était un peu plus accessible, j'ai résidé dans la demeure d'un de mes anciens étudiants, Mohamed Nassim Khan, qui était un homme très pacifique, et d'autant plus pacifique que son père, instituteur, avait été assassiné dans le Bajaur, mais il y avait une Kalachnikov sous chacun des lits. Donc, autant vous dire que ça n'était pas une région facile dans les années 80. Un siècle plus tôt, juste après la conquête britannique, qui avait été très difficile, ça l'était encore moins. Et donc, les sites du Swat n'ont véritablement commencé à être examinés que lorsque Giuseppe Tucci, dans les années 50, y a établi la mission italienne qui a tant fait pour notre connaissance de l'art du Swat et par ricochet de l'art du Gandhara. Quant à la région de Jalalabad, qui est très importante maintenant pour les manuscrits gandhari et qui se trouve ici, la région de Jalalabad a été fermée aux Britanniques jusqu'en 1924. Entre 1871 et 1924, une dizaine d'étrangers seulement ont pu passer la passe de Raïber et se rendre dans l'Afghanistan dont les Britanniques avaient verrouillé les frontières. Il a fallu la guerre anglo-afghane de 1919, puis le choix par le roi Amanullah de faire venir Alfred Fouché pour créer la délégation écologique française en Afghanistan, pour que le site de Hada, qui était vaguement connu, puisse être exploré par Bartou. Donc en 1905, Fouché écrit « L'art gréco-bouddhique du Gandhara ». Il est bien clair qu'il se limite à la région autour de Peshawar. Et si vous connaissez un peu l'art du Gandhara, vous verrez qu'une partie des plus belles pièces viennent du mess, de la cantine, des officiers, des guides de Mardan. Cette carte est un peu grossière, mais vous voyez où se trouve Mardan. C'est juste à l'entrée des passes qui mènent au Swat et au Bunner. Et c'était une place très importante à l'époque du point de vue militaire. C'est ce qui bloquait les incursions essentielles, les incursions éventuelles de tribus Yusufzai sur Peshawar. De même que le fort de Jamrud, qui est extrêmement connu, qui se trouve ici, bloquait les incursions éventuelles et fréquentes des Afridis sur Peshawar. Disons qu'après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, le terrain a été plus favorable jusqu'aux archéologues, en tout cas jusque les années, disons, 1980-1990, avec les guerres en Afghanistan et la situation extrêmement difficile au Pakistan dans cette région, due à la présence des talibans et due aussi à l'extrémisme islamique de ceux qui ne sont pas des talibans, dû aussi à des problèmes de manque de terres, parce que la fertilité des familles pachtounes est extrême, mais par contre, les terres ne s'accroissent pas. Et donc, il y a de plus en plus de gens pour de moins en moins de terres. Et le trafic de drogue ou le trafic d'armes ne suffit pas à compenser. Donc la région est extrêmement difficile. Maintenant, même le séjour à Peshawar est difficile. Il y a des bombes quasiment toutes les semaines à Peshawar. Mais pendant un siècle, il y a eu un peu moins d'un siècle, pendant 75 ans, on a pu se promener à peu près sans trop de difficultés, en tout cas, dans le Gandhara, dans la vallée du Swat, dans le Dir. On n'a jamais pu aller au Bajaur. Le Bajaur a été exploré uniquement par un archéologue pakistanais et pas très bien. Le Bajaur, c'est une vallée qui est juste au contact de la frontière afghane. On a pu aller à Hada, qui était à 10 km de la route goudronnée. On n'a pas pu aller autour de Hada. Toute la région qui est ici, qui fait des centaines de kilomètres carrés, tout ce qui est la grande plaine Chinwari, est absolument inexplorée. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu beaucoup de monastères. C'est un endroit très, très riche, mais c'est également la principale voie de passage des biens de contrebande vers l'Afghanistan. Et toute la région qui est entre Razni, ici, et la plaine du Nangarhara est quasiment inexplorée. On connaît quelques grands sites, mais tout ceci regorge de monastères qu'on n'a pas vus. Donc, du point de vue de l'art du Gandhara, la perspective était élargie depuis longtemps, en dehors du Gandhara lui-même, à la vallée du Swat, à Taxila qui avait été fouillée entre-temps, et à Jalalabad qui a été fouillée dans les années 30 par Bartou, et dans les années 60, d'abord par le fondateur de l'Institut afghan d'archéologie, Shaibai Moustamendi et son épouse, et puis ensuite par son successeur, Zamaralai Tarzi. Et puis, bon, dans l'état où était l'histoire de l'art du Gandhara, ça ne gênait pas grand-chose. Ce qui a changé les choses, c'est toute une série de découvertes qui ont été faites depuis une trentaine d'années dans cette région, entre Peshawar, le bas de la vallée du Swat et Adda. On ne sait pas exactement où ça a eu lieu, mais il y a d'abord eu deux grandes séries d'inscriptions dites royales, je reviendrai sur le mot royal, celle des rois d'Apracha et celle des rois d'Odi, et ensuite trois découvertes de manuscrits qu'on attribue à la région de Adda ou de Bajaur, mais dont on ne sait pas exactement en fait d'où ils viennent, puisqu'ils ont été acquis chez un antiquaire de Peshawar et qu'on ne peut pas faire confiance aux antiquaires pour dire d'où viennent les choses. Ça a considérablement changé les choses. Alors, les inscriptions royales, j'en traiterai peut-être une en séminaire si on a le temps. Il ne faut pas exagérer sur le mot royal. Les Français ont pris l'habitude de traduire le mot Raja par roi, ce qui est étymologiquement à peu près vrai. Mais en fait, Raja en Inde, ça ne signifie pas un roi, et depuis très longtemps. Marik a établi dans sa première édition de l'inscription bactrienne de Surkotal l'histoire des titres indiens, qui est assez facile à faire à cette époque, aux environs de notre ère, ou deux siècles avant, parce que nous avons des monnaies bilingues qui donnent sur une face une légende grecque, avec des titres en grec, et sur l'autre face, les titres en langue indienne. Et on voit très bien que ce qui correspond à Basileus, c'est-à-dire le mot grec pour roi, c'est d'abord Maharaja, et non pas Raja. Et puis ensuite, c'est Maharaja Adhiraja, c'est-à-dire le roi suprême sur les grands rois. Si vous regardez la terminologie indienne contemporaine, ça correspond à peu près à ça. Vous avez des Maharajas qui peuvent être grands ou petits, peut être un grand Maharaja Marat, comme le Maharaja de Gwalior, ou un Maharaja qui a une importance rituelle, mais pas beaucoup d'importance politique, comme le Maharaja d'Udaipur ou de Kota. Il y en a de tout petits, comme le Maharaja de Patiala, qui était quand même très riche. Hein, mais ils ne sont pas rois. Ils étaient subordonnés d'abord à l'empereur Mohol, parce que ce sont tous des Maharajas modernes. Au vice-roi des Indes, ou plus exactement la vice-reine, puisqu'il s'agissait de Victoria. Ils n'ont jamais prétendu au titre royal. Et puis en dessous, tous ces rajas, vous avez les Rajputs, ou tout simplement des gens qu'on appelle Rao, qui sont de grands propriétaires fonciers. Donc depuis un siècle avant notre ère environ, la traduction de Raja par roi, c'est une traduction qui est fausse. Et on le sait très bien, mais ça ne fait rien, on continue. Les Français sont très républicains, mais ils adorent les rois. En réalité, ces petits rajas, ce sont des chefs de bande ou des chefs de tribu, les gens qu'on appelle des malèques maintenant dans la région. Et ils n'ont de roi que le fait qu'il y ait une succession dynastique et que probablement, il y a un certain nombre de choses brahmaniques. Enfin, on ne doit pas pouvoir. Il vaut mieux ne pas trop les comparer aux rois de France, encore qu'il y ait certains de rois de France à l'époque mérovingienne qui ne contrôlaient pas beaucoup plus de terrain qu'eux. Donc on a, grâce à ces deux séries d'inscriptions, on a eu beaucoup de choses sur la façon dont le bouddhisme s'était implanté, la date à laquelle il s'était implanté. Ce sont toutes des inscriptions de fondation bouddhique, et aussi sur la langue, parce qu'il y avait quelques inscriptions très longues, et au lieu d'avoir une phrase stéréotypée, là on avait quelques inscriptions avec des phrases assez importantes. Et puis ça permettait également de voir comment se faisait l'indianisation de ces régions et la bouddhisation de ces régions. Quelques années plus tard, donc, il y a eu ces trois découvertes de manuscrits qui sont très importantes parce que ce sont des manuscrits qui datent du 1er siècle et du 2e siècle de notre ère, en gros, et qui, pour la plupart, sont des aides-mémoires destinées aux moines afin qu'ils puissent prêcher, répandre la bonne parole dans la situation locale. Et comme ce sont des aides-mémoires, ils ont cet avantage de refléter la situation linguistique exacte. Et en même temps, ils nous montrent quels sont le type de textes qui étaient étudiés, c'est-à-dire des textes qui ne sont pas du tout, qui n'étaient pas encore fixés canoniquement, qui vont l'être quelques années plus tard. Ça intéresse beaucoup les spécialistes du canon bouddhique. Il y a également quelques textes mahayaniques qui sont très importants parce que ça fixe les débuts du Mahayana et à quoi cela ressemble. J'en parlerai peut-être à la suite du cours. Et au même moment, reprenant des idées qui avaient déjà été émises depuis longtemps, il y a un certain nombre de sinologues qui ont considéré que une partie du canon bouddhique chinois, en particulier tous les sutras et le Vinaya qui relèvent des Dharmaguptaka, avaient été traduits de la Gandhari. En général, les indices sont très faibles, mais ça fait très bien de montrer que l'on connaît un peu de phonétique moyenne indienne. Ce sont toujours des sinologues qui ont fait ça, hein, pas des indianistes. Et on s'est donc retrouvé avec une étendue de textes gandhariens qui était largement plus grande que la petite ère du Gandhara, et qui en plus se trouvait avoir eu une grande influence, puisque l'on supposait que c'était par ces manuscrits, et l'on suppose toujours que les premiers textes bouddhiques avaient été répandus en Chine. C'est pour ça qu'en 1999, mon collègue Salomon, qui organise de façon remarquable la publication des manuscrits de la région de Hadda qui sont déposés au British Museum, a proposé d'appeler toutes les régions où il y avait des traces de la Gandhari, de l'appeler le Grand Gandhara. Alors, quelques indications. La première, c'est que le nom de Gandhari, pour désigner la langue du Gandhara, c'est une dénomination très récente. C'est une dénomination qui date d'un article de Bailey en 1948, qui, ayant constaté que la plupart des formes Gandhari, et surtout la façon dont elles étaient écrites, je reviendrai, venaient du Gandhara, a dit que c'est beaucoup plus simple d'appeler ça de la Gandhari que de continuer l'ancienne désignation, qui était plus longue, plus vague, mais qui correspondait probablement mieux à la réalité, qui était de Prakrit de l'Inde du Nord-Ouest. L'Inde du Nord-Ouest étant ceci. Là, je reviendrai sur les caractères de cette langue. L'une des caractéristiques de la Gandhari, y compris pour les linguistes, qui font malheureusement n'arrivent pas à voir la différence entre langue et écriture, c'est que la Gandhari est caractérisée comme Gandhari non pas à cause de ses particularités linguistiques, mais parce qu'elle est écrite dans une écriture très spéciale qu'on appelle la Kharoshthi, et qui est une écriture qui a sans doute été inventée au temps où les Achéménides tenaient la région, ou un peu plus tard. C'est très probablement la première écriture indienne inventée, et qui est très, très différente de l'écriture habituelle des textes indiens, qui est un peu plus tardive, qu'on appelle la Brahmi à époque ancienne, et dont la Nagari, mais également les écritures du sud de l'Inde, descendent directement, et qui est une écriture inventée sur le sol indien par des grammairiens indiens et qui note beaucoup mieux les langues indiennes que la Gandhari, qui pose d'énormes problèmes de lecture, puisque c'est une écriture de type araméen et non pas une écriture où les voyelles sont extrêmement mal notées, où les signes ne sont pas bien distingués. C'est une écriture très difficile. Et donc, dans l'esprit des gens, Gandhari et Kharoshthi sont tout à fait égaux. Et en fait, on déclare qu'une inscription est en Gandhari quand elle est en Kharoshthi. Ça, c'est quelque chose dont on sait parfaitement que c'est faux. Hein, avec l'alphabet romain, vous pouvez écrire du latin, du français, mais également de l'arabe en transcription, de l'américain et du chinois en pinyin. L'écriture est simplement un moyen comme un autre de noter la langue. Et la langue, elle s'identifie par des traits qui lui sont constitutifs et qui apparaissent au linguiste. C'est quelque chose qui a été rarement tenté, sauf une fois par mois. Et le résultat, c'est que l'appellation du Grand Gandhara recouvre aujourd'hui non pas l'ère où l'on parlait la Gandhari, c'est-à-dire le Gandhara et peut-être les régions voisines, mais toutes les régions où on a des textes écrits en Kharoshthi. Ceux d'entre vous, peu nombreux ici, qui ont entendu la conférence de M. Glass, ont pu s'apercevoir que ce qu'on appelle le corpus des textes Kharoshthi, des textes Gandhari, c'est en fait un dictionnaire, d'ailleurs très bien fait, des mots attestés en écriture Kharoshthi. Et le résultat, c'est que vous avez des textes qui non seulement ont à peu de choses près les mêmes caractéristiques linguistiques, qui sont les textes de la région de Taxila, du Gandhara, le Swat en partie, Adda, mais vous avez des textes également en une langue qui est très différente, même si elle est marquée d'éléments indiens, c'est le dialecte de Niya, et puis vous avez tous ces textes d'importation que l'on trouve en Bactriane. Et le Grand Gandhara couvre ainsi toute cette région. Alors, ceci n'est pas tout à fait faux. Moi, je n'aime pas du tout l'expression, je vous dirai pourquoi. Ce n'est pas tout à fait faux. Parce que quand on regarde les processus symboliques et les processus, disons, de sensibilité des gens, ce qui les frappe beaucoup plus que la langue, c'est l'écriture. L'écriture continue à avoir quelque chose de sacré. Il n'y a qu'à regarder les débats en France chaque fois qu'on veut réformer l'orthographe, les remplacer un PH par un F ou un double S par un S. L'Académie française monte au créneau disant que la civilisation française va être perdue. Il est bien évident que les Italiens qui ont fait ça avant nous sont toujours aussi civilisés alors qu'ils écrivent pharmacie avec un F. Quand on a essayé il y a quelques années de supprimer les majuscules des noms en allemand, il y a eu le même tollé. Et bien que la réforme orthographique allemande ait été officiellement adoptée, dans les faits, les livres sont toujours imprimés de la même façon. Je ne sais pas comment les élèves allemands sont notés, ils n'ont peut-être pas de dictée, et donc le problème ne se pose pas. Pourtant, c'était une réforme extrêmement peu grande. L'écriture a une valeur symbolique et même sacrée, et c'est surtout vrai des écritures qui ont noté des textes religieux, et en particulier de l'arabe. La situation de l'Ouzbékistan est de ce point de vue-là très, très emblématique. Quand l'Ouzbékistan, sans l'avoir demandé... Quand l'Ouzbékistan, sans l'avoir demandé, a obtenu son indépendance en 1990, l'indépendance s'est marquée par le fait que l'Ouzbékistan a immédiatement abandonné l'alphabet cyrillique. Et ils ont repris l'alphabet arabe, qu'ils n'avaient pas utilisé depuis un siècle. Le résultat, c'est que comme personne ne savait écrire l'arabe, et qu'en plus l'alphabet arabe est très très mal adapté aux langues turques, au bout de quelques années, ils sont passés aux transcriptions turques des mots turcs, ce qui était déjà meilleur. Et puis comme ils se sont brouillés avec les Turcs, et que le régime actuel est anti-islamique, ils sont en train de revenir au caractère cyrillique. Mais la langue n'a pas changé, hein, c'est toujours la même, c'est toujours le même ouzbek mêlé de persan et mêlé de russe. Donc, effectivement, dire qu'il y a une ère Karoshti, c'est montrer qu'il y a une ère de civilisation, une ère très importante, puisque la Karoshti règne à peu près seule sur cette ère. Des inscriptions d'Ashoka, c'est-à-dire des environs de 260 avant notre ère, inscriptions d'Ashoka sont ici, ici et là. Ensuite, ça s'est accru jusqu'à la disparition de la Karoshti, qu'on ne date pas très bien, qui doit dater de la fin du 3e siècle ou du 4e siècle de notre ère. Il y a donc une ère Karoshti. Et ça, c'est vraiment une écriture locale dont le remplacement par la Brahmi, à partir du 4e siècle, dénote un changement d'ère culturelle et d'ère de civilisation tout à fait important, alors que la langue, en fait, n'a pas changé. Par contre, la Gandhari, c'est tout à fait différent. La Gandhari, jusqu'à présent, était connue essentiellement par par des inscriptions de cette région. Et donc, c'était la langue du Gandhara. Et puis, l'ère s'est étendue et nous avons maintenant toute une ère qui est connue depuis un siècle qui paraît correspondre à une ère beaucoup plus vaste, une ère linguistique beaucoup plus vaste que le Gandhara. En effet, vous voyez Peshawar, l'ère du Gandhara, c'est ça. Hein, vous avez dans la haute vallée de l'Indus, ici, tous ces dialectes chinois. Vous avez dans la vallée du Swat et dans la vallée du Panchkora, deux autres langues, le Bashkarik et le Torvali. Et puis ici, dans le Chitral, vous avez également deux langues importantes qui sont le Kalasha et le Kowar, qui sont des langues modernes, attestées à partir du XIXe siècle et pour un certain nombre d'entre elles maintenant disparues, qui ont les mêmes caractéristiques que la Gandhari. Le... La carte que vous voyez, qui est une carte préliminaire à l'atlas que j'ai publié en 72, c'est vieux tout ça, vous montre ici la limite du Pachtou telle qu'elle existait en 70. La limite du Pachtou telle qu'elle est aujourd'hui a beaucoup changé, puisque le Pachtou est une langue en expansion et on peut considérer que ça se trouve à peu près là maintenant, la limite du Pachtou, et qu'elle atteint y compris la rive de la Djeloum. Mais le phénomène donc est clair. Nous avons une ère ancienne de la Gandharie avec des parlers indiens dont il reste des traces dans les hautes vallées. Vous voyez qu'ici, il n'y a rien, hein, tout simplement parce que ce sont des montagnes vides. Les gens qui parlent ces langues sont sur le bord des rivières, mais tout le reste, c'est du caillou. Donc, le Pachtou a pénétré dans les hautes vallées et pas tellement tard. Le Tiroï, par exemple, est mort simplement au XIXe siècle. La pénétration dans certains endroits remonte au XVIe siècle. Pour la vallée du Swat, la vallée du Swat a été conquise à partir du XVIe siècle par les Yousufzaï. Et dans cette région, on voit encore les Pachtous qui poussent et qui attrapent ce qui vaut la peine, c'est-à-dire les pâturages et les forêts. Et effectivement, quand on regarde la carte, on a l'impression d'une énorme aire Gandharie qui est fragmentée maintenant par la région, par la poussée du Pachtou. Le Pachtou ayant recouvert la région de Peshawar elle-même depuis longtemps et poussant depuis le XVe siècle le long de toutes les rivières de la rive gauche de la rivière de Kaboul. C'est très satisfaisant pour l'esprit, sauf que ça risque d'être faux. Quand on analyse la Gandharie, si je reviendrai, par rapport aux autres langues indiennes, la Gandharie se caractérise par rapport aux autres moyens indiens, ceux de la vallée du Gange, par son conservatisme. C'est-à-dire qu'elle conserve depuis longtemps, elle conserve tout au long de son existence, c'est-à-dire jusqu'au IIIe siècle de notre ère, quand on fait l'équation Gandhari égale Karoshti, mais elle conserve encore maintenant dans ses hautes vallées des traits disparus depuis longtemps des autres moyens indiens. C'est le seul dialecte moyen indien qui conserve la distinction de trois sifflantes. Vous savez qu'il y a trois sifflantes en sanskrit. Elle n'existe plus dans aucun moyen indien, qui sont tous passés soit à ce, soit H, tandis que dans ces régions-là, on a encore la distinction des trois sifflantes, la sifflante palatale, la sifflante rétroflexe et le S. Et en plus, ils ont un son qui n'existe pas dans les langues indiennes, qui est un Z. Il y avait de même dans les langues indiennes trois nasales dentales. Elles sont uniquement conservées en Gandharie et dans ces langues qui subsistaient dans les hautes vallées qu'on appelle les langues dardes. Il y a un seul trait innovant qui est commun, mais il n'est pas, il n'est pas déterminant. Ce sont des langues où l'aspiration est faible et c'est tout à fait normal parce que ce sont des langues de la frontière indo-iranienne. Et dans les langues iraniennes, l'aspiration a disparu depuis très longtemps. C'est un phénomène de linguistique aréale. Donc vous avez des langues qui, en fait, ne sont liées que par des archaïsmes. Alors ne croyez pas que parce qu'elles ne sont liées que par des archaïsmes, ce sont des langues qui sont quasiment du sanskrit. Ce n'est pas vrai du tout. Elles ont évolué, mais elles ont gardé ces trois archaïsmes. Et l'état linguistique que l'on voyait déjà un tout petit peu dans les inscriptions et que l'on voit beaucoup mieux dans les manuscrits Gandhari du British Museum ou dans ceux de la vallée du Bajaur. L'état linguistique, par contre, montre un état d'usure des consonnes intervocaliques et de certaines voyelles absolument étonnant. Ce sont, quand vous n'avez pas l'habitude de la linguistique historique et que vous mettez un texte Gandhari en face de sa traduction sanskrite, vous ne reconnaissez pas les deux langues. Il y a des archaïsmes, mais en même temps un état d'usure extrême. Mais pour le linguiste, ce sont les archaïsmes qui essaient de faire des filiations, ce sont les traits communs et les archaïsmes qui sont importants. On pourrait raisonner sur les innovations, on devrait même raisonner sur les innovations. Il y a longtemps qu'un grand linguiste britannique, Turner, a montré que pour établir les langues, la parenté des langues ou des dialectes, ce qui comptait, c'était des innovations communes et non pas des archaïsmes communs. Parce que lorsque vous avez une innovation commune, ça signifie qu'on est parti d'un même point de départ. Lorsque vous avez un archaïsme commun, ça signifie simplement que toutes les langues ont gardé ce qu'elles avaient avant. Elles ont eu un point de départ commun, mais bien antérieur. Malheureusement, nous n'avons pas de manuscrits contemporains des manuscrits Gandhari du British Museum dans ces hautes vallées, où l'on n'écrit plus les langues indiennes depuis le 6e ou le 7e siècle de notre ère. Et quand on les écrit, comme ici dans la région de Gilgit, c'est en sanskrit. Il y a quelques inscriptions en kharoshthi ici, mais pas assez pour faire une analyse linguistique. Le résultat, c'est que comme il s'agit d'archaïsmes partagés, vous ne pouvez pas dire que les dialectes vivants du grand Gandhara, le chinois, le torvali, le bashkarik, ont la même origine que la Gandhari. Ils ont la même lointaine origine, ça c'est sûr. Ce sont des descendants des langues indo-européennes entrées en Inde au second millénaire avant notre ère. Cette origine-là, c'est certain qu'ils l'ont, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une expansion de la Gandhari à partir de la région de Peshawar vers les vallées. La Gandhari elle-même a pu jouer pendant un moment donné le rôle du Pashtu, c'est-à-dire de refouler vers les hautes vallées des populations indo-ariennes, c'est comme ça qu'on parle des populations indiennes parlant une langue indo-européenne, donc des populations indo-ariennes qui n'avaient pas la même origine. Ça, c'est impossible à le dire. Alors, si l'on revient au grand... Et alors, si l'on revient au grand Gandhara, qui est une notion tout à fait à la mode, puisqu'on parle du Grand Paris. Le Grand Paris, en anglais, ça se dit « the Greater Paris ». Vous avez le Grand Manchester. Et le titre de ma chaire est traduit de l'anglais. En anglais, ça se dirait « Greater India ». Alors ça vient depuis beaucoup plus longtemps. Donc, la notion est tout à fait claire. Vous avez un noyau, qui est le Gandhara, et puis vous avez une ère d'attraction de civilisation, d'attraction d'histoire de l'art, d'attraction de langue, qu'on appelle le grand Gandhara. C'est parfait lorsque l'on traite de problèmes qui couvrent des aires géographiques extrêmement larges et sur un temps limité. Par exemple, en urbanisme, lorsqu'on traite le problème des routes, ou plus exactement des nœuds routiers, lorsqu'on traite le problème de l'habitat, lorsqu'on traite des problèmes comme la diffusion de l'écriture. Ça, c'est tout à fait... ça va tout à fait bien, sauf que lorsqu'on parle du Grand Paris, Il y a peu de chances que ça se... que ça se confonde avec une autre ère. Par contre, le grand Gandhara, lui, il a un gros problème, c'est qu'à un certain moment donné, disons à partir du IIIe siècle, il se confond dans cette région avec le grand Cachemire, et bien avant, il se confond dans cette région avec la Bactriane. Donc c'est une région qui n'est pas clairement délimitée. C'est simplement l'ère de la diffusion de la Kharoshthi. Et l'ère de la diffusion de la Kharoshthi en Bactriane est en concurrence depuis toujours avec deux autres écritures, l'écriture araméenne et l'écriture grecque. La Bactriane, bien qu'elle fasse partie pour certains du grand Gandhara, est un pays où la Kharoshthi ne joue qu'un rôle minime. Par ailleurs, ça n'a rien de comparable avec des notions qui jouent sur un temps plus long, comme celle de Greater India ou d'histoire du monde indien. Évidemment, à l'origine, cette expression qui a été forgée par des nationalistes bengalis au début du XXe siècle, ça désignait les pays qui, autour du golfe du Bengale, avaient subi une très forte influence indienne. Alors, cette influence, elle pouvait être hindoue, comme au Cambodge et en Indonésie. Elle pouvait être bouddhiste, comme en Birmanie et comme en Indochine en général. Et dans cette Greater India, de façon très bizarre, il n'était jamais question de Ceylan, de Sri Lanka, si vous préférez, parce que pour des, quand la notion a été forgée, la Birmanie faisait partie de la vice-royauté des Indes, alors que Ceylan n'en a jamais fait partie. Vous voyez que c'est toujours plus ou moins politique. Mais au-delà de cette situation qui est une situation passée, au XXe siècle, il y a quand même une permanence dans l'histoire qui fait qu'aujourd'hui encore, la notion de plus grande Inde, même si on ne dit pas comme ça pour des raisons politiques, ça a quand même une certaine valeur. D'abord, vous avez des pays bouddhistes, la Birmanie, la Thaïlande et Sri Lanka, qui considèrent que le centre de leur religion et donc le lieu de pèlerinage principal, c'est le nord de l'Inde. Et donc, les liens, de ce point de vue-là, sont assez forts, mais vous avez également des liens politiques ou des liens géopolitiques, puisqu'ils sont imposés par la géographie, qui se traduisaient dans les années 50 par les principes de Bandung, et qui se traduisent maintenant par la constitution d'une association régionale qu'on appelle l'ASEAN. Donc là, il y a une réalité géopolitique, il y a une réalité économique, il y a des réalités de migration, il y a des réalités de langue, des réalités de religion, et ça se conçoit. Lorsqu'il s'agit du Gandhara, c'est un peu différent. D'abord parce qu'il n'y a jamais eu d'unité politique. Il n'y a eu aucun moment de l'histoire, le grand Gandhara n'a représenté une entité politique. Le Gandhara lui-même a toujours été inclus dans des unités politiques beaucoup plus vastes, et ces unités politiques n'ont pas toujours recouvert les mêmes frontières. Ensuite, il n'y a pas d'unité de religion. La partie, disons, bactrienne du grand Gandhara est restée, bien qu'il y ait eu des bouddhistes, mais elle est restée pour la population très certainement en majorité mazdéenne, c'est-à-dire qu'elle suivait une variété de zoroastrisme. Le Gandhara lui-même, quand on regarde un peu l'onomastique, avait à côté d'une présence bouddhique massive et évidente une présence hindoue qui était non moins massive et non moins évidente, mais qui ne se voit pas parce qu'à cette époque, les hindous n'avaient pas de temple et ne sculptaient pas de sculptures, ou très peu. Et quant aux langues de la région de Yarkand, Khotan, c'est-à-dire essentiellement les documents de Niya qui sont écrits en Kharoshthi, c'est une langue. Bon, on a trouvé des restes de temples bouddhistes. C'est par le bouddhisme qu'est venue l'écriture Kharoshthi et une partie de la Gandhari, hein, mais on ne sait rien en fait sur les cultes réels. Les différences les plus importantes, ce sont les langues, parce que tout de suite au nord du Grand Gandhara, vous avez la région de Gilgit, probablement la haute vallée de l'Indus, et le Hunza, qui parlait une langue qui manifestement a été repoussée par le nord, vers le nord, qui s'appelle le Burushaski. Et le Burushaski est une langue non indo-européenne qui n'a rien à voir avec la Gandhari. Tout de suite, il est probable qu'à Jalalabad, on parlait un dialecte indien très proche de la Gandhari. Dans la région de Kaboul, déjà, ça n'est plus vrai. Dans la région de Kaboul, il y a des gens qui parlent des dialectes indiens. Il en reste des traces, ce qu'on appelle les langues pachaï, justement la vallée d'Alassai, où l'armée française est en train de se battre, était, il y a encore 30 ans ou 40 ans, une vallée pachaï. Il doit y avoir des pachaï au haut de la vallée. Maintenant, les pachtounes les ont tous repoussés vers le nord. Mais on sait que la région était depuis longtemps une région majoritairement de langue iranienne. Quant à la Bactriane, elle était, et elle est encore, majoritairement de langue iranienne. Et encore, les Turcs n'étant arrivés que beaucoup plus tard. Donc c'est une notion extrêmement hétérogène. Vous avez également une hétérogénéité religieuse tout à fait claire. Si l'on ne pose pas cette hétérogénéité religieuse au départ, on ne comprend pas comment la vallée du Swat est devenue, après la disparition du bouddhisme en fait au Gandhara à partir du 6e 7e siècle, un centre de bouddhisme tantrique extrêmement actif, alors qu'on n'a pas de traces de ce bouddhisme tantrique au Gandhara lui-même. De même, on ne comprend pas grand-chose au bouddhisme d'Asie centrale si on ne se souvient pas que la population était mazdéenne et qu'un certain nombre de moines avaient été des mazdéens. Donc il faut faire attention à ça. Et puis il y a quoi. Si la notion de Gandhara est au départ une notion artistique, il faut quand même bien voir qu'il y a des hétérogénéités artistiques tout à fait énormes, puisque même s'il y a des traces de l'art du Gandhara dans la Bactriane, et si l'on peut faire des parallèles, même s'il y a des sculptures qu'on peut appeler gandhariennes en Bactriane, la majeure partie de l'art de la Bactriane est plutôt de type iranien et grec. Et sans être un grand historien de l'art, on distingue assez facilement à l'intérieur du Gandhara proprement dit la région de Hadda, le Gandhara autour de Peshawar et, grâce à nos collègues italiens, les ateliers Swati. Ça n'est même pas le même matériau. Alors, la notion de grand Gandhara, telle qu'elle est appliquée maintenant, ça permet d'être très vague. C'est-à-dire, ça permet de comparer des choses de Taxila à des choses de Bactre ou à de l'art du Cachemire, en appelant tout ça grand Gandhara. Ça permet aussi un autre avantage, de se faire de la publicité. C'est très important, la publicité, maintenant. Nous sommes un des rares pays le type de recherche désintéressée que je fais est subventionné par le gouvernement. Mais dans la plupart des pays modernes ou contemporains de la France, et des voisins de la France, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Grande-Bretagne et que ce soit le modèle de tous les États-Unis, mais que ce soit aussi le Japon, qui a joué un grand rôle dans l'étude de l'art du Gandhara, c'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Hein. Moi, j'ai un budget de fonctionnement et j'en fais à peu près ce que je veux. La plupart de mes collègues étrangers, et maintenant, depuis les réformes de Mme Pécresse, les jeunes collègues français, c'est pas du tout comme ça. Il faut qu'ils fassent un projet et puis ils ont de l'argent pour 3 ans. Alors, ça a un certain nombre d'effets pervers. Ça plaît beaucoup aux comptables, parce qu'au bout de 3 ans, ils peuvent dire, voilà, on avait tant, on a reçu tant. Ça a des effets pervers, ça force les gens à aller vite, ça force les gens à se restreindre sur des petits sujets, parce qu'il faut faire des choses en 3 ans. Ça coupe les continuités, alors que je vous assure que moi qui reprends maintenant mes dossiers d'il y a 30 ans, la continuité est une chose importante, mais surtout, comme il faut convaincre les gens qui vont vous donner l'argent, eh bien, ça force à employer des mots grandiloquents et à montrer que dès que l'on étudie quelque chose, c'est un sujet d'importance mondiale. Dès qu'on étudie une aire géographique, c'est vaste comme un continent. Et dès qu'on étudie un problème historique, ça a bouleversé l'histoire du monde. Donc, il y a une inflation d'auto-évaluation des projets et le mot de Greater Gandhara fait partie de cette cette façon de se mettre en valeur, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Quand vous demandez de l'argent à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet, il n'y a pas d'autre moyen que de trouver de l'argent. C'est aussi pour ça, par exemple, que dans les expéditions scientifiques de la NASA, on parle plus de l'exploration de Mars et du fait qu'on en espère y trouver des êtres vivants que de l'exploration qui, elle, rapporte tout de suite quelque chose, c'est-à-dire l'exploration faite par les petits satellites de télédétection. Alors, du point de vue de la recherche, quelles sont les priorités actuelles? Si on le pouvait, il y a certains, on pourrait travailler sur les différences linguistiques. Je pense qu'on y arrivera un jour. Pour l'instant, la priorité est à éditer les textes. Les textes sont très bien édités. Quand ils seront édités, et au rythme où ça va, ça sera dans une dizaine d'années, on pourra regarder de très près si la langue des textes est exactement celle de Peshawar ou si la langue de Hadda montre des différences avec celle de Bajaur et avec celle du Gandhara proprement dit. C'est-à-dire que on a désormais les matériaux pour faire une dialectologie du Gandhara ou même repérer des langues différentes. Ça va être la première priorité maintenant, c'est éditer les textes. Et la seconde, c'est de les examiner. Et pour cela, il y aura une étape intermédiaire que ces histoires de grandes CDANR vont, je crains, empêcher de se faire, c'est la constitution de corpus. La documentation est absolument dispersée. Et si vous regardez un peu la biographie de l'art du Gandhara, vous verrez qu'il y a des statuts qui sont publiés un peu partout, parfois 2 ou 3 fois, mais c'est la même chose pour les langues. Chaque fois qu'on est invité à un colloque, il faut faire un petit papier. Et donc, vous avez un bout de texte qui est publié à Londres, un autre à un colloque à Hambourg, le troisième à un colloque à Tokyo. Enfin, c'est d'une dispersion et d'une perte de temps absolue. Alors, c'est quand même, grâce à l'informatique, en ce qui concerne les textes, ça va un peu mieux, car la constitution du site Gandhari par les élèves de Salomon permet la consultation assez rapide de ce qui est publié, et les manuscrits sont publiés en collection. Ça va assez vite. Mais malgré tout, il y a une grande dispersion, et en tout cas pour l'art, il faudrait des corpus. Donc, premièrement, donc, dans la linguistique, regardez à peu près qu'il y a différences des langues. Dans l'histoire, on est en train de faire des progrès, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, en tout cas pas ici, mais il est tout à fait clair que l'on a fait d'énormes progrès dans la connaissance de l'histoire de ces régions au 5e, 6e, 7e siècle. Enfin, disons entre même plutôt du IIe siècle avant jusqu'au VIIe après notre ère, et qu'on ne peut pas parler de Grand Gandhara. Il y a des moments où la région de Peshawar est rattachée à des empires du nord de l'Inde, d'autres où elle est rattachée à des empires arabes, ou d'autres où elle est rattachée à des empires de Bactriane. C'est une situation extrêmement complexe que Fouché ne pouvait pas deviner parce qu'il n'avait pas les documents à sa disposition, mais qui reste complexe, mais on commence quand même à voir un certain nombre de différences. Et puis surtout, la priorité, c'est de rechercher les différences artistiques. Grâce aux fouilles italiennes du Swat et à d'autres travaux, mais surtout grâce aux fouilles italiennes du Swat, on arrive maintenant à distinguer un certain nombre d'ateliers. Il est évident que les progrès dans la compréhension et la datation de l'art du Gandhara seront plus grands quand, au lieu d'avoir une masse informe de documents dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, on aura reconstitué les ateliers qui les ont faits et établi une chronologie, non pas pour l'ensemble du Gandhara, ce qui ne veut rien dire, mais pour un certain nombre d'ateliers. Ça, c'est la priorité des priorités. Et donc, je pense que la notion de Grand Gandhara, comme notion de travail, comme notion de propagande, on peut la garder, comme notion de travail, ce n'est pas la priorité actuellement. La priorité, au contraire, c'est de revenir aux provinces et de revenir aux notions de Gandhara, d'Udhyana, c'est-à-dire le Swat, et de Nagarhara, c'est-à-dire la région de Jalalabad, et de voir ce qui se passe à l'intérieur de ces provinces, car on commence à avoir les éléments pour le faire, et c'est comme ça qu'on va véritablement progresser. Ces provinces, elles sont encore permanentes. La différenciation entre le Swat et la région de Peshawar est tout à fait nette, et avec celle de Jalalabad, elle est tout à fait nette, même après 30 ans de guerre où les frontières ont été vraiment poreuses. Et les gens qui tiennent vraiment à la notion de Grand Gandhara devraient se demander ce que devient cette notion quand, à partir du IIe siècle de notre ère, et même un peu avant, dans beaucoup d'endroits, la Kharoshthi est remplacée par la Brahmi, alors que rien ne permet de dire que la langue a changé et que l'origine des moines a changé. Et qu'est-ce qu'on fait également du Grand Gandhara quand on s'aperçoit que tout le vocabulaire technique et l'inspiration des textes religieux, c'est en fait un vocabulaire gangétique qui vient de la région de naissance et de diffusion du bouddhisme bien avant le Gandhara, c'est-à-dire la région de Patna et la région de Mathura. Alors, à ce moment-là, il ne reste plus grand-chose. Et inversement, qu'est-ce qui se passe quand la prééminence politique passe non plus au Gandhara, mais à ce qu'on appelle le Kapisa, sous les Aftalites, ou au Cachemire? C'est une notion qui ne correspond à rien sur le terrain, qui ne correspond qu'à désigner une ère non pas linguistique, mais d'écriture, et qui permet effectivement de se faire valoir auprès des généreux mécènes, étatiques ou non, qui permettent à nos jeunes collègues et à nos anciens collègues, lorsqu'ils sont allemands, britanniques ou américains, de continuer des études qui ne servent qu'à la progression de notre connaissance pour l'indancienne. Je vous remercie et on commence le séminaire dans 10 minutes.